Bien, bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir de vous voir. Alors, on est dans les personnages bibliques. Aujourd'hui, on va en découvrir, on va en découvrir plusieurs en même temps. Mais toujours sous un même principe, ce principe de la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, comme à la télé, on va faire voter le public. En fait, ça représente deux personnes. Deux personnes, deux boutons, un rouge et un bleu. J'ai cherché un vert, mais j'ai pas trouvé. J'ai pris un bleu. Et vous allez devoir choisir le chrétien qui ressemble le plus à un chrétien. Ça va? Alors, bouton bleu, à ma droite, un monsieur d'âge mûr, un peu comme moi, avec des allures extérieurement conformes à la chrétienté évangélique, les chaussettes assorties au mouchoir, elles sont blanches, j'ai pas de mouchoir. Et ce monsieur représente une harmonie indiscutable, jusqu'au bout des ongles, nickel chrome, tout va bien. Il a sa Bible second, pas n'importe laquelle, hein, elle est sous son bras, c'est la 1910, hein. Et sur ses genoux, le recueil de chants, à toi la gloire, en dessous, bien sûr, le GM3. Voilà. Puis un bloc-notes pour prendre des notes. Bon, personne prend des notes aujourd'hui, mais... Et donc ce monsieur, à ma droite, il prie, et le public va devoir bientôt voter. Alors à ma gauche, le bouton rouge, c'est un autre monsieur. Un peu plus jeune, on se demande d'où il vient hein, d'ailleurs, est-il tombé du lit? Vient-il de se réveiller? Son pantalon est large, peut-être même que c'est un Bermuda. Un peu délavé, crasseux par endroits, il a du gel dans les cheveux, d'hier. Ses cheveux sont un peu décolorés, sa barbe est de 7 jours. Il a quelque chose à l'oreille qui brille. Il semble que sa Bible soit en français courant. Et il n'a pas de carnet de chant. Et ce monsieur va aussi prier. Et le public va devoir voter. Donc, bouton bleu, bouton rouge, deux messieurs qui prient. On va ouvrir nos Bibles dans Luc au chapitre 18, versets 9 à 14. Et c'est Jésus qui parle. Il dit encore cette parabole. Pour certaines personnes qui se persuadaient d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre péager. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas, comme le reste des hommes qui sont accapareurs, injustes, adultères, ou même comme ce péager-là. Moi, je jeûne deux fois dans la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Et le péager se tenait à distance, il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine. Et il disait, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit de sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. C'est intéressant comme passage, hein. J'aime bien Jésus parce qu'il remet tout de suite les pendules à l'heure. Et lorsque Jésus a raconté cette histoire, il n'y a pas photo, beaucoup pensaient savoir qui allait ramasser la mise. Hein. Beaucoup pensaient savoir que c'était certainement le pharisien qui allait ramasser le pactole. Merveilleux représentant de l'ordre moral, droit comme un i, le pharisien, finalement, a tout pour lui. Il est d'une rectitude morale impeccable. À l'entendre, c'est vrai qu'il ne se bouge pas que dans du papier. Bref, il est spirituellement dans les clous. Il ne manque à aucune réunion. C'est quelqu'un de très engagé, certainement dans les activités du temple. C'est quelqu'un qui a du poids. En tout cas, il est vu comme quelqu'un qui est spirituellement très nickel, quoi. Seigneur, voilà, c'est moi, j'arrive. Seigneur, t'as vraiment de la chance de me rencontrer, moi, parce que qu'est-ce que tu aurais fait sans moi? Je pense que sur la planète Terre, t'en trouveras pas deux comme moi. Je suis l'unique, le seul. On a dû casser le moule, d'ailleurs. D'ailleurs, Seigneur, quand je vois ce que je vois autour de moi, et quand j'entends ce que j'entends, et quand je sais ce que je sais, eh bien, Seigneur, j'ai raison de penser ce que je pense. Voilà, ça c'est le pharisien, parce que finalement, il y en a, et je ne donne pas les noms. Je ne donne pas les noms, mais il y en a, attention, hein, qui sont vraiment, vraiment graves. Graves. Au-dessous du niveau zéro. Au-dessous. Totalement, totalement désengagés. Jamais une prière spontanée, spirituellement éteint, alors que moi. Contrairement au publicain, le pharisien a une bonne image de lui. Il fait du bodybuilding spirituel, on dirait du soulbuilding, c'est comme ça qu'on dit. Et dans sa vie, tout semble couler de source, tout semble impeccable, rien ne lui échappe. Et avant de lui apprendre quelque chose, eh bien, il faut se lever de bonne heure. Il a des convictions bibliques bien ancrées, d'ailleurs il n'a pas besoin de professeur, sa lecture lui suffit. Il est du genre à mettre des croix dans toutes les cases de sa sainte fiche d'évaluation. Et mes amis, j'ai envie de vous dire que dans notre esprit, nous savons tous, qui que ce soit ici, nous avons tous une image de ce qu'est ou de ce que devrait être un véritable chrétien. En tout cas, un chrétien évangéliquement correct. J'ai aussi ma sainte fiche d'évaluation, très scriptuaire, avec plein de lignes et de colonnes, qui m'aide quelque part, qui semble m'aider à décrire ce qu'est vraiment un bon, un vrai, un pur, un dur, un vrai chrétien, un bon chrétien, comme moi évidemment, hein, comme moi. Et c'est vrai que quand je vous regarde, je me dis que finalement je suis content d'être moi. Je suis vraiment pas mal comme type, pas mal du tout, il y a pire, hein. Mais c'est pas la peine de chercher bien loin. Et le publicain, quelle nullité spirituelle. Tout faux, c'est clair, il a tout faux. Le publicain ou péager, quant à lui, chante sans rien à moi, tel que je suis, si tu ne m'offres pas ton pardon, si tu n'es pas patient envers moi, si tu me regardes de travers, je suis un homme fini. Alors d'un côté, vous avez celui qui forge sa propre justice à la sueur de son front et à la force de son poignet. Et de l'autre, vous avez celui qui dit « Moi, je n'ai rien, Seigneur, absolument rien. Et si tu ne me donnes rien, eh bien, je n'aurai rien. » C'est aussi simple que ça. Et je dois dire que mon gros défaut, à moi, c'est de penser que si je ne fais rien, si je ne fais rien, je n'aurai rien. Vous voyez ce que je veux dire? Si je ne fais rien, je n'aurai rien. Ce défaut m'amène à un autre défaut, ma façon d'évaluer les autres. Qu'est-ce qu'un chrétien? Quelqu'un qui jeûne deux fois par semaine, qui donne la dîme de son revenu, qui ne rate pas une seule réunion? C'est ça? Quelqu'un qui sait élever ses enfants et mener une vie de couple bibliquement correcte? Quelqu'un qui assiste à chaque réunion? Iron, mon chien, peut assister à chaque réunion, je vous assure, hein. Sans s'endormir. Moi, je demande pardon à Dieu d'avoir souvent évalué mes frères et sœurs de cette façon. Parce que, en évaluant mes frères et sœurs de cette façon, je me suis placé au-dessus d'eux dans mon cœur. Et la Bible me dit, qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui, s'il se tient debout, ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, quoi que tu en penses, quoi que ton évaluation en dise. Car le Seigneur, a le pouvoir de le soutenir. Qu'est-ce qu'être chrétien? Fréquenter des lieux chrétiens? Chanter des chants chrétiens? Avoir des activités chrétiennes? Avec des chrétiens, dire bonjour, au revoir à des chrétiens, manger avec des chrétiens. Ça va, je risque rien. Et je pense qu'être chrétien, c'est beaucoup plus que ça. Et ce pharisien, sous prétexte que finalement il jeûnait toutes les semaines deux fois, qu'il donnait la dîme de tous ses revenus, qu'il avait organisé sa vie autour d'une multitude de principes, certes, très bibliques, hein, il se disait, c'est bon, moi, je suis dans la bonne colonne. Ben oui, il y en a qui sont en état de grâce, et puis il y en a d'autres que, bon, ils n'ont pas le niveau, quoi. C'est ça. Il y en a que, c'est bon. Ils sont tout de suite, Et le problème, c'est qu'une telle attitude est totalement contraire à ce que la Bible enseigne. Elle dénature non seulement le cœur de Dieu, mais encore pire, dénature l'évangile de la grâce. Dans cette parabole, Jésus nous apprend que contrairement aux apparences et aux votes du public, c'est le publicain qui est rentré chez lui justifié. Et je crois que parfois le Seigneur permet dans nos vies que nous chutions, que nous nous éloignions, même parfois, spécialement pour que nous restions ou redevenions comme ce publicain. Parce qu'à un moment donné, Dieu nous rappelle à lui. Si tout est nickel, comment voulez-vous que ces choses-là se passent? Vous savez que si le Seigneur le veut, maintenant, là, à un instant, mais à, vraiment à une fraction de seconde, vous pouvez être libéré de tous vos défauts, de tous vos fardeaux, de tous vos échecs répétés. S'il le veut, en un clin d'œil, c'est terminé. Vous repartez d'ici, plus aucun défaut. Terminé. Vie de couple, nickel. Vie d'église, nickel. Vie en société, plus aucun problème. Il le peut. Il en est capable. Hein. Il peut le faire. La question se pose, c'est pourquoi il le fait pas. Toujours, on va dire. Il peut faire, mais dans certains domaines de notre vie, pour l'instant, il préfère que nous restions un peu comme Méphibosheth. Encore un troisième personnage qui arrive. Vous vous souvenez de Méphibosheth? Méphibosheth, c'est un handicapé. C'est un invalide. Un boiteux. Une boite. Il est invité à la table du roi David. Et c'est un invité qui est permanent à la table du roi. Au même titre que les autres invités. Qui, eux, sont valides. Vous voyez? C'est l'invalide au milieu des valides. Petit rappel, dans 2 Samuel, chapitre 9, verset 8, Méphibosheth se prosterna devant le roi David et dit « Mais qu'est-ce ton serviteur pour que tu te tournes vers un chien mort tel que moi ?» MC aurait diagnostiqué un gros complexe d'infériorité. Mais Méphibosheth se décrit comme étant quelqu'un qui n'a aucune valeur en lui-même. Il se voit méprisable, indigne de toute attention, et en plus, en l'occurrence, de la part d'un roi tel que David. David, le roi David. Un peu plus loin, 2 Samuel, chapitre 9, verset 13, Méphibosheth, il est dit que Méphibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait en permanence à la table du roi. Alors, il était boiteux des deux pieds. Pas un seul pied, des deux pieds en plus. Notons au passage que la signification du mot Jérusalem en hébreu, habitation ou possession de paix. Une paix qui ne dépendait pas des qualités de Méphibosheth, mais uniquement de la grâce du roi. Tout comme nous. Notre paix, ta paix, ma paix, ne dépend pas de mes performances. On est bien d'accord là-dessus. Notre paix avec le Seigneur ne dépend pas de nos performances, ni de nos réussites, mais de l'amour, de la miséricorde et de la grâce de notre Seigneur Jésus. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. C'est notre base, Éphésiens 4, 32, c'est la base de notre vie chrétienne. J'ai une illustration dans son livre « L'éveil à la grâce » de Swindoll qui nous dit « Imaginons quelques années plus tard, la cloche du dîner sonne dans le palais du roi, le roi David vient s'asseoir en bout de table, quelques secondes après rentre Amnon, rusé, intelligent, qui prend place à côté de David. L'élégante et féminine Tamar arrive et se place près d'Amnon. Puis arrive Salomon. Salomon arrive avec un papyrus à la main. Un beau jeune homme instruit, avec Bac++, plein de sagesse. Puis, d'un pas athlétique, arrive Absalom, Usain Bolt, séduisant avec sa peau d'ébène et ses cheveux frisés. Puis arrive Joab, un guerrier, musclé, bronzé, qui vient s'asseoir près du roi. Vous voyez la table du roi, vous imaginez? Tous sont assis et attendent qui? Ils attendent Méphibosheth. Parce que Méphibosheth, il met un peu plus de temps à arriver à table. Tu vois, déjà, pour ouvrir la porte, c'est pas évident pour lui, tu vois. Et puis après, il boite. Alors du coup, tu entends le bruit de sa démarche, quoi. On attend. On attend qui? Méphibosheth. Et il traîne la patte. Il traîne la patte. Avec ses deux béquilles. Et il s'assoit avec peine. Et la nappe blanche vient recouvrir ses pieds. Il est là, l'estropié. Le boiteux qui avance comme un escargot. Il est là, tout simplement, parce qu'il est l'invité du roi. Mes amis, nous sommes les invités du roi. Avec nos échecs, avec ce que nous traînons derrière, avec nos boiteries. Il y a beaucoup d'invités qui auraient pu se prévaloir d'être au niveau. Lui, il était au niveau zéro, celui du publicain. Aucun faire-valoir, rien. Moi, j'ai envie de vous dire, ce matin, je ne me sens pas au niveau. Et je ne me sens pas plus au niveau que mon frère ou ma sœur, même si c'est moi qui parle et que c'est vous qui écoutez. Est-ce qu'on se souvient de la première béatitude? Heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle. Car ils voient leur misère, leurs péchés, leurs échecs, et ils pleurent sur eux-mêmes. Ils réalisent la grâce pour eux-mêmes. Et de ce fait, ils deviennent beaucoup plus tolérants, miséricordieux et patients envers leurs frères et sœurs. Ils savent que leur nature héritée d'Adam ne s'améliorera pas. Ils savent qu'ils ont besoin d'une autre nature, celle de Christ. Ils savent que même avec cette nouvelle nature, les choses ne s'arrangeront pas du jour au lendemain. Et Thomas d'Aquin disait « La grâce ne fait pas disparaître notre nature, mais l'achève. » Vous savez dans quelles circonstances, moi, je sens ma vieille nature qui est en train d'être achevée? Vous savez dans quelles circonstances? La plupart du temps, ça va vous choquer. Lorsque je suis victorieux, lorsque je suis satisfait de moi, lorsque je suis satisfait de moi, je sens que ma vieille nature est en train d'être achevée. C'est fou, hein? Si tu es le seul, ça va. Notre vieille nature, elle a besoin d'être achevée. Elle n'héritera pas du royaume de Dieu. Achevée. Exécutée. Dans cet esprit-là. Tout à fait. Oui. Elle a besoin d'être achevée. Elle a besoin de mourir pour laisser place à la nouvelle nature, celle que nous avons héritée en Christ. Il y a du boulot. Il y a un boulot monstre. Monstrueux. Mais notre vieille nature ne s'améliorera pas. On peut mettre tous les cosmétiques, on peut faire tout ce qu'on veut. Elle ne s'améliorera pas. Mais tu vas comprendre un peu plus en allant un peu plus loin, tu vas voir. Lorsque j'implore la grâce de Dieu, ma vieille nature est achevée. Lorsque je suis en situation d'échec, lorsque je boite, lorsque je n'y arrive pas, lorsque je me frappe la poitrine, lorsque je crie, mais jusqu'à quand, Seigneur, je vais continuer à être comme je suis? Ces mauvaises pensées, cette façon de croire que j'y suis arrivé, c'est à ce moment-là que ma vieille nature est achevée. Connaissez-vous le prophète Zacharie? Encore un prophète. Un personnage de plus. On a trois personnages, quatre personnages pour le prix d'un. Zacharie a exercé son ministère à Jérusalem. En tout cas, lorsque Jérusalem, ses murailles et son temple étaient en ruine. Plusieurs réveils avaient eu lieu. Plusieurs réveils successifs avaient eu lieu avant l'arrivée du prophète. Mais le peuple, malgré ça, s'était enfoncé dans la rébellion. Et Dieu a dû conduire son peuple à l'exil babylonien. 70 ans de captivité avant que certains commencent à retourner à Jérusalem. Et ce retour, bien sûr, s'est fait en plusieurs étapes sous la conduite de Zorobabel. Vous trouvez ça dans Esdras 1 et 2. 70 ans plus tard, d'autres encore rejoignirent Jérusalem dans Esdras 7. Et encore 13 années, et Néhémie se rendit à Jérusalem pour rédiger la reconstruction des murailles du temple. Encouragé par les paroles de Cyrus, Zorobabel, quant à lui, entreprit la reconstruction de l'autel et de la maison de l'Éternel. Mais voilà, les adversaires étaient nombreux et le peuple était, on va dire, apathique, las, découragé. Et les travaux se sont alors arrêtés pendant 15 ou 16 ans. Zorobabel comptait alors sur l'appui des prophètes, comme toujours, pour redonner de la motivation au peuple. Dieu a d'abord envoyé le prophète Agé, qui n'est pas vieux, son nom. Aucun autre prophète n'a eu autant à cœur ce projet. Mais contrairement à Zacharie, ses propos étaient sévères. Ils étaient durs. Et Dieu savait que le peuple allait se décourager. C'est bien le prophète Agé, mais ça écrasait encore plus les gens. De dures épreuves arrivèrent, récession, famine, persécution, crise. D'ailleurs, c'est dans ces moments-là que le réveil se passe. Souvent, je crois que c'est Roy Ayson qui disait « Le réveil, c'est pas le plafond qui s'ouvre, mais c'est le sol qui s'effondre. » Parce que c'est ça. Quand on prie sans rien à moi, Seigneur, c'est le sol qui est en train de s'effondrer. Vous voyez ce que je veux dire? Le réveil, c'est pas « ça y est, waouh, ça y est, des miracles partout ». Non, non, le réveil, c'est tu boites, t'as quatre pattes, tu te fais persécuter, là tu t'es réveillé, là. Là, y a pas de problème, c'est pas « ça y est, tout est bien, tout est nickel ». Le réveil, c'est « je souffre ». Le réveil, c'est ce qui nous achève, qui achève notre nature, qui veut s'en sortir par elle-même. Et au bout du compte, le réveil, c'est quoi? C'est quand le peuple commence à dire « waouh, j'ai besoin de toi, là, je peux plus. Je peux plus, j'y arrive pas ». Le réveil dans ta vie de couple, c'est ça. Le réveil dans ta vie, dans tes relations, c'est ça. Dans ton travail, c'est ça. C'est accepter l'épreuve et t'attendre à ton Dieu. Alors, ce qui se passe, Zacharie arrive, parce que le peuple devait passer par cette crise, pour que le message du prochain prophète soit entendu. Parce qu'autrement, il n'était pas entendu. Il fallait passer par cette crise. Alors on ouvre nos Bibles et on lit les paroles de Zacharie, communiquées par un ange spécialement pour Zorobabel, dans Zacharie au chapitre 4, versets 6 et 7, il dit « Alors l'ange reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. » Quelles sont les acclamations? Grâce, grâce pour elle. Grâce, grâce pour elle. Les mots puissance et force décrivent l'effort humain, l'énergie que peut avoir la chair, celle du pharisien. L'énergie de la chair, l'énergie que nous sommes tous capables de déployer. Nous nous sommes tous rendus coupables occasionnellement d'avoir accompli des choses pour Dieu avec la force de notre propre chair. Un certain Théodore Letch a fait un travail d'étude formidable sur les petits prophètes. Il écrit ce qui suit, écoutez bien. Les deux mots hébreux, puissance et force, dénotent la force intérieure, la puissance naturelle, la bravoure, le courage, la force morale, aussi bien que la main d'œuvre. Un grand nombre de soldats, des richesses, des dirigeants, des leaders, waouh, d'organisations bien coordonnées, de bons systèmes financiers, l'œuvre de l'Éternel, la construction de son temple, la croissance intérieure et l'expansion de son Église ne peuvent être réalisées par de simples moyens externes. La force et la sagesse humaine seules failliront. Mon esprit doit le faire. L'œuvre de Dieu ne s'accomplira ni par la force humaine, ni par la puissance de la chair. Quel message pertinent pour nous ! Cela signifie que je dois renoncer à des tactiques charnelles, finalement, pour l'accomplissement de ma tâche dans le corps de Christ, manipulation, méthode culpabilisante, force de ma personnalité, force de mes paroles. Je dois éviter ces choses-là. C'est fou. Vous savez pourquoi nous comptons souvent sur nos propres efforts, nos propres forces ? Vous savez pourquoi ? La raison principale, c'est laquelle ? D'après vous. Parce que la puissance de la chair donne des résultats. L'ingéniosité humaine, ça marche. Ça marche. Il faut dire que les résultats sont tellement gratifiants. Malheureusement, à la lumière de l'éternité, tout ce que nous aurons fait par la force de notre chair ne comptera que pour du beurre. Dieu a une meilleure idée pour nous, c'est ce qu'on appelle, en ce moment, c'est un mot qu'on emploie souvent, on appelle ça le développement durable. Remarquez le point culminant du projet de reconstruction du temple, verset 7, grâce, grâce. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel ? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. Prophétique, hein ? On a une fenêtre qui s'ouvre sur la Nouvelle Alliance, un temple rebâti en 3 jours. Mais on peut dire aussi que chacun de nos actes peuvent être accomplis soit à notre manière, soit à la manière de Dieu. Chacun de nous possède un potentiel humain, impressionnant, logique, efficace. Et au premier abord, personne ne voit la différence, hein. Vu de l'extérieur, l'énergie de la chair ressemble à l'énergie de l'esprit. Elle peut déployer la même force. En tout cas, c'est complètement différent quand on regarde les choses du point de vue de Dieu qui voit le cœur. Et c'est vrai que si nous sondons nos intentions profondes, finalement, en étant un peu honnêtes avec nous-mêmes, souvent on va dire, mais c'est nous qui avons fait ça. C'est nous qui l'avons fait. C'est nous qui avons... Conséquence, ben la gloire ne revient pas à Dieu et la grâce n'atteint personne. Parce que c'est ça le problème. Le pharisien commence sa prière en disant « Ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme les autres. » Mes amis, si la grâce ne mène pas à la grâce, si la grâce de Dieu ne fait pas de nous des personnes souples, compatissantes, patientes, au lieu de se demander si nous avons vraiment été touchés par la grâce, il faut se poser la question. Il faut se le demander. Est-ce que j'ai vraiment été touché ? Et l'excès de zèle peut devenir une occasion de chute pour les autres. Imaginez maintenant un instant que ce pharisien croise régulièrement le regard de ce publicain, et vice-versa. Le publicain croise le regard de ce pharisien. Quand ils vont au temple, vous savez, ils vont au temple ensemble. Enfin, ensemble. Pas ensemble, mais ils vont dans le même temple. Et puis, il se peut aussi que le publicain n'ait pas besoin d'entendre prier le pharisien de cette manière, parce qu'il a prié d'une manière, si t'es à côté, dégoûté, quoi. Mais une simple attitude, un simple regard, peut suffire pour culpabiliser ce publicain. Vous savez, je connais personnellement des gens qui ne veulent plus entendre parler d'Élie. Ils ne veulent plus en entendre parler. Et c'est trop facile de leur mettre sur le dos le fait que l'Église, ouais, ils ont des choses à se reprocher. Je peux vous assurer que dans l'Église et dans ma propre vie, on a toujours des choses à se reprocher. Non, il y a des personnes qui ne veulent plus entendre parler d'Église pour cette raison-là. Certaines personnes essuient tellement d'échecs, ont tellement du mal à avoir cette victoire sur certains péchés de leur vie, ben qu'elles se découragent. Elles finissent par devenir fatalistes. C'est ma nature, je n'y peux rien, je ne changerai jamais. Vous voyez, la problématique est là au fond. Parce que finalement, au lieu de les accueillir et de les prendre comme ils sont, eh bien, on leur pose des fardeaux. Et elles en ont déjà, donc ça fait double. Et on charge la mule, et au bout d'un moment, les gens pètent les plombs. Ce matin, j'ai envie de te dire que Dieu a le pouvoir et la volonté de te changer et de me changer. Certes, il va le faire à son rythme, mais il va le faire. Mais franchement, heureusement que j'ai compris qu'il existait la Bible pour les nuls. Et la grâce pour les nuls. J'ai évoqué Méphibosheth, le boiteux. J'aurais pu parler de Jonas. Jonas, il votait Front National. Hein. Le salut, c'était que pour les Israélites, hein, pas pour les Ninivites. Hein. Raison pour laquelle Jonas a même fait la grève du ministère. Hein. Il a fait la grève de la prédication. Il a dit stop. J'aurais pu évoquer le fils aîné de la parabole du fils prodigue, le chrétien au col blanc. Alors lui, il était nickel, hein. Pas de souci. Il ne veut pas entrer dans la maison parce qu'il pense que son frère n'est pas assez sanctifié. Il n'est pas assez saint, il n'est pas assez clean. Non, non, là, franchement, il n'a pas assez changé celui-là. Il n'est pas assez... Non, lui, il n'est pas assez chrétien. Lui. Il n'a pas montré tous les signes véritables d'une véritable repentance, tu vois. Il sent encore trop le monde. Il sent la Marlboro. Il a encore un peu trop les odeurs du hashish et compagnie, le gars, là. Ça va pas. Qu'est-ce qu'il fait là, franchement? Et son comportement ressemble beaucoup à celui de ce pharisien. Et la question que nous pose Philippe Yancey dans son livre « Touché par la grâce », ben c'est exactement cette question. Est-ce que nous avons été touchés par la grâce? Touchés par la grâce. L'Évangile, le Seigneur de l'univers, le Roi des rois, le prince de la paix, celui qui disait « Qui de vous me convaincra de péché ?» Celui qui a quitté le ciel, qui a ouvert les cieux, qui s'est mis à table avec nous. On pourrait se souvenir aussi de ce repas chez Simon, Simon le pharisien. Vous vous rappelez ce repas extraordinaire? Avec cette femme-là, vous avez déjà imaginé le tableau? À quoi pouvait ressembler une prostituée en train d'embrasser les pieds de Jésus? Faut se poser la question, hein. Comment aurions-nous réagi à la place des invités? Quelqu'un qui est un rabbi, un gars qui enseigne la parole de Dieu, avec une prostituée à ses pieds, en train de lui embrasser les pieds. Waouh! Là, il y a de quoi se poser des questions, quoi. Hein. Eh, il faut se poser ces questions-là. Peut-être qu'on se serait dit, oh Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme cela, là. Vite, je regarde pas. Je vais terminer par le dernier verset de notre parabole, verset 14. Mais oui, quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. On doit faire attention de ne pas dévaloriser les autres. Si nous avons de la connaissance, si nous sommes engagés, si le Seigneur nous a accordé la grâce de pouvoir tenir ferme, de ne pas tomber dans certains domaines, car nous brochons tous de plusieurs manières, hein, dit la Bible. N'oublions pas que tout ça, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Pour éviter de tomber dans le travers du pharisien. Parce que ça nous guette, hein, à tous. On peut écouter les conseils de l'apôtre Paul. Dans Romains 12, il nous dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir une prétention excessive ou déraisonnable, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération. Chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. » Colossiens, chapitre 3, verset 12. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, Revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Et si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, eh bien, vous aussi, faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Le lien de la perfection, c'est ce qui nous lie. Nous aurons tous des possibilités de pouvoir se plaindre les uns des autres. Tous, sans exception. On a tous quelque chose qui ne va pas à son voisin. Soyons des modèles, oui, mais avant tout des modèles de compassion, de miséricorde, d'amour et de grâce, à l'exemple de notre Seigneur. Vous savez, c'est ce genre d'attitude qui va interpeller nos voisins, nos amis, nos connaissances. C'est ça qui va dire, mais là, il se passe vraiment quelque chose. Vous savez, on parle beaucoup d'évangélisation, mais les gens, ils veulent voir aujourd'hui. Regardez, ils veulent même plus voter, quoi. Les politiques, ils parlent bien, mais ils vivent rien, quoi. C'est la folie. C'est la folie. Si nous, on fait pas la différence, et cette différence, on peut la faire vraiment dans nos attitudes. Et vous savez, les gens dans la société, ils sentent ça. Ils le reniflent à des kilomètres. Ils voient comment nous sommes, comment nous nous comportons. Ils pigent rapidement si on se sent supérieur à eux. Je vais prier. Seigneur, merci pour la Bible. Merci pour cette parabole que tu nous as racontée il y a 2000 ans, mais qui est tellement, tellement, tellement actuelle. Seigneur, nous sommes conscients que notre chair, notre vieille personne n'héritera pas du royaume de Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes de nouvelles créations, de nouvelles personnes. Tu as implanté en nous ce qui va grandir, ce qui va être à la ressemblance de ta personne, toujours plus. Donne-nous d'être attentifs à la direction de ton esprit, dans nos cœurs, déjà, que nous soyons sensibles, que nous entendions ce que ton esprit dit dans nos cœurs, mais aussi que nous soyons sensibles à ce que nous faisons, la manière dont nous le faisons. Nous avons vraiment besoin d'être à ton écoute, Seigneur. Et encore merci pour ta grâce qui nous a touchés. Merci parce que nous avons réalisé que tu avais donné ta vie pour nous. Nous avons réalisé que tu nous aimes au-delà de ce que nous sommes et ce que nous faisons. Merci d'avoir implanté en nous la vie. Nous sommes tellement reconnaissants. Aide-nous à marcher avec toi, Seigneur. Amen.